Allez, le mot de la semaine, USA. Trump a délivré son discours sur l'état de l'Union. C'était un discours fleuve. On serait cru devant les grandes heures de Castro à Cuba avec un seul message. Jamais la situation économique américaine n'a été aussi bonne. Jamais. De toute l'histoire. C'est fantastique, c'est great, c'est exceptionnel, il pourrait dire. Durée du cycle de croissance, inflation, pouvoir d'achat. Pour lui, tout est vert et même rose. Alors, Hervé Gouletkier, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment?
On sait que l'exagération est tout de même dans les caractéristiques de Donald Trump. Donc, dans tous les cas, vous devez passer ça à ce filtre-là. Quand on enlève le filtre, qu'est-ce qu'on observe? Alors, la croissance 2025, donc la croissance de la première année du deuxième mandat, 2,2%.
Ça va.
C'est au niveau du potentiel de croissance. Qu'est-ce qu'on peut extrapoler? C'est sans doute même un peu au-dessus. D'accord. Donc, à ce titre-là, on peut dire, c'est bien, mais c'est juste bien.
Je vous interromps une seconde. Sur la notion de cycle économique de croissance le plus long de l'histoire, il a raison, là.
Non, on est à 6 années de phase haussière du cycle. Elle a démarré après la Covid, donc 21, et puis on est dans la 6e année. Les phases les plus longues, c'est les années... La phase la plus longue, c'est les années 90, ça a été 10 ans. C'est pas compliqué, hein. Une phase haussière longue, s'il n'y a pas un choc extérieur, c'est une inflation stable à un niveau qui maintient les anticipations stables aussi. Pour le moment, du côté des anticipations, on n'est pas complètement sûr.
Donc en fait, donc croissance, on peut dire, bon, il ment pas trop, il exagère.
Mais en fait, le point qu'il n'a pas soulevé, oui, c'est que si on compare 2025 à l'année précédente, oui, 2024, on avait fait 2,4%, et sur les 4 années du mandat de Biden, la croissance moyenne doit être autour de 3,5. Alors certes, la première année, 21, c'est la sortie de la Covid, mais vous prenez les 3 suivantes, vous êtes quand même à 2,7, c'est 0,5 points de plus que les 2,2.
Exagération sur la croissance. Sur l'inflation, il dit, j'ai rendu du pouvoir d'achat aux Américains.
Alors, c'est vrai que sous tout le mandat Biden, on a dû commencer à 6,5, sortir de la Covid, pour finir à 2,5 en 24 et en 25, on refait 2,5. Donc, il peut dire qu'il a réussi à normaliser les prix. Presque, pas entièrement, puisqu'on sait que la cible serait plutôt à 2. Donc oui,
ça va.
Il est vantard,
il n'a pas une mauvaise note là-dessus. Il exagère. Il a un 14 sur 20, il dit qu'il a 20, mais il a 14 sur 20. Allez. Par contre, ce qui passe totalement à la trappe, c'est déficit public, voilà, déficit commercial.
Si on raisonnait en grands équilibres macroéconomiques, du côté de l'emploi, bon, finalement, on a un chômage à 4%.
Ça va.
Bon, ça va, mais comme il a quand même mis à la porte pas mal de monde, en fait, ça l'aide un peu, parce que le marché de l'emploi n'a pas été très dynamique, il faudra qu'on reparle de ça. Et puis sur les déficits, qu'ils soient des comptes publics, qu'ils soient de l'extérieur, là c'est quand même très très mauvais. Donc l'image d'ensemble, ça reste même une économie qui, même à 2,2%, avec un déficit budgétaire extrêmement important, croit peut-être un peu vite. Sinon on n'aurait peut-être pas le déficit extérieur que l'on a aujourd'hui.
Vous lui donnez combien sur 20 pour sa première année de mandat, juste sur l'économie?
Alors si on est en diagnostic conjoncturel, oui, qu'est-ce qu'il a fait de la croissance à court terme? Bon, c'est honorable, ça vaut 12. Est-ce qu'il prépare l'avenir aujourd'hui? Là, c'est pas certain. J'ai quand même l'impression que la préparation de l'avenir était mieux faite avant que maintenant.
Et à l'élève Trump, Jean-Marc Daniel, vous donnez quelle note?
Une très mauvaise note, et d'ailleurs je ne serai pas le seul, puisque au moment même où il faisait sa conférence, la directrice du FMI commentait le rapport article 4 du FMI sur les États-Unis. Vous savez, tous les ans, le FMI fait un état des lieux des grandes économies, ce qu'on appelle les rapports article 4, et quand il s'agit des États-Unis, c'est la directrice générale de l'institution qui parle elle-même, et elle a dressé, avec un ton extrêmement mesuré, un tableau assez apocalyptique de la situation américaine. On va y aura une dette publique qui va atteindre les 150% à l'horizon 2030. On a un déficit commercial qui, malgré des droits de douane très élevés, n'arrête pas de se creuser. Donc elle a véritablement expliqué que les gens ont du mal à admettre, mais que le mécanisme des doubles déficits est un mécanisme essentiel dans l'économie, et que ce mécanisme est totalement théorisé, montré et actualisé par les États-Unis. Les États-Unis représentent à l'heure actuelle un peu plus des 2/3 des déficits extérieurs cumulés de la planète, c'est-à-dire que l'excédent chinois que l'on met en avant, en fait, n'a de sens, n'existe que parce qu'il y a un déficit américain. Et elle dit, il y a une perte de contrôle de l'économie américaine. Elle emploie ces termes-là. Elle dit, l'économie américaine n'est plus sous contrôle, avec comme conséquence que la seule réponse qu'elle apporte, cette économie américaine, c'est des droits de douane, qui est la pire réponse que l'on puisse apporter.
Donc elle est sous emprise de Jean-Marc Daniel.
Mais c'est-à-dire que
on a l'impression de voir du Jean-Marc Daniel dans.
Ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré quelque part. Moi. Ça montre qu'il n'y a pas que Jean-Marc Daniel, pour parler à la troisième personne concernant dans un style à l'aile de l'eau, il n'y a pas que Jean-Marc Daniel qui a repéré que le déficit extérieur est directement lié au déficit budgétaire.
Vous êtes d'accord avec moi que les réponses qu'elle donne et les conseils qu'elle donne aux États-Unis, c'est quand même c'est Miss France, quoi. C'est-à-dire, vraiment, il faut augmenter les investissements industriels, il faut faire de l'immigration choisie, il faut réduire la consommation. Ah, c'est un peu, oui, il faut plus de guerre dans le monde. Et,
oui, ce qu'elle dit, c'est qui est assez convenu, mais ce qui est essentiel dans ce qu'elle dit, malgré tout, c'est quand même le fait que tout ce modèle intellectuel qui n'arrête pas de dire il faut augmenter la consommation parce que ça va faire de la croissance et tout ça, ce modèle intellectuel est derrière nous.
C'est ça. Et ce qu'elle dit, il n'est pas derrière nous.
Il ne fonctionne pas. C'est le modèle français. Et ça fonctionne aussi mal en France. C'est le modèle aussi britannique. Ça fonctionne aussi mal au Royaume-Uni. Et ce qu'elle dit bien, c'est qu'en particulier sur la réindustrialisation et tout ça, si vous reprenez le rapport, elle dit bien que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Vu le coût du travail aux États-Unis, ce qui est aussi le cas en Europe, vous n'allez pas entrer immédiatement en concurrence avec les pays qui sont en train de se réindustrialiser, pas de se réindustrialiser.
On a l'IA.
Moi, je mets une mauvaise note. Rajouterai les destructions dans l'emploi manufacturier. Ça fait plus de 100 000 emplois depuis 2025. Et puis, moi, je trouve que l'économie américaine, elle tient pour l'instant. Mais parce que l'IA tient, quand vous regardez les chiffres du quatrième trimestre 2025, il y a la consommation des services qui a tiré un peu la croissance et surtout l'investissement dans l'intelligence artificielle. On prévoit 650 milliards. Donc, il faudrait pas qu'il y ait un crack sur le Nasdaq. Il faudrait pas qu'il y ait un ralentissement dans l'IA. Sinon, moi, je pense que l'économie américaine peut être au point zéro parce que la consommation des ménages patine et on a voilà, de plus en plus une économie en cas.
L'archétype de ce que je pense en mettant une forme de pensée, je veux pas.
Il m'interrompt!
Qui est totalement obsolète. C'est-à-dire cette obsolète, vision keynésienne comme quoi la consommation tire la croissance, c'est contre ça qu'elle s'est.
Sauf que Jean-Marc, c'est quand même 65% du PIB. Donc si on a une consommation qui patine, on aura une économie qui patine.
Oui, mais Jean-Marc vous dit, il vaut mieux pas de consommation avec une croissance qui baisse. Parce que finalement, vous avez moins de destruction de richesse, non?
Non, je dis que c'est pas la question. J'ai rien compris. Non, mais ce modèle, qui est un modèle qui est issu des années keynésiennes, dans lequel effectivement c'était la demande, et on disait c'est la consommation parce que c'est la demande qui tire la croissance. Ce modèle est en train d'être. Vous prenez le dernier numéro de l'American Economic Review. La plupart des articles sont en train de dire il faut revenir à Jean-Baptiste C et oublier Keynes. Ouais. C'était revenir.
Ça manque
à
de photos
idée
et de.
C'est le travail qui est l'investissement, le travail, les de productivité, même Krugman, qui est quand même l'archétype du keynésien, dit ce modèle sur la consommation est absurde, ce qui fait la croissance, c'est les gains de productivité. Et donc là où je rejoindrai le problème, c'est le problème sur la tech. Est-ce que la tech va devenir des gains de productivité?
Bien sûr.
Ou est-ce que la tech ne va pas faire des gains de productivité?
La réponse est oui, d'ailleurs.
C'est l'économie américaine qui va stagner cette année, si on a le moindre choc sur la tech américaine.
André, qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat?
Alors, moi, je voulais peut-être revenir sur les États-Unis et sur les accomplissements de Trump et peut-être une façon de le mesurer. Alors, je n'ai pas les mêmes statistiques qu'Hervé, mais je me fie à un seul bureau, c'est le Congressional
Budget Office,
voilà, qui faisait des statistiques de prévision économique sur 25, 26, 27, et je prends celle de fin 24, et donc on avait une croissance de 1,9 pour 25, 1,8 pour 26 et 1,8 pour 27. Qu'est-ce qui s'est passé en 25? Trump a annoncé son Big Beautiful Bill, qui a quand même, il faut le savoir, aggravé le déficit budgétaire. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Le déficit qui était déjà à 6, il passera plutôt à 7 en 26. Et en 27, c'est même 1,5 point supplémentaire. Donc, on a rajouté du charbon dans la locomotive. Et pendant ce temps, il y a eu plutôt des révisions à la baisse pour 25, parce que ce même bureau, les mêmes prévisions à fin décembre, donnent une fourchette entre 1,5 et 1,9. Donc on aura plutôt un effritement de la croissance en 25, une petite amélioration en 26, et rien en 27. Donc ça veut dire que sans cette relance budgétaire massive qui est insoutenable, puisqu'on on a cité les chiffres de dette qui sont insoutenables, bah l'économie elle aurait complètement dérapé. Et donc ça, c'est, je pense, la meilleure illustration de ce qui se passe aux États-Unis. C'est quand même une économie qui s'affaisse, et la bourse ne s'y trompe pas puisqu'elle patine aussi depuis maintenant quelques semaines.
Alors puisqu'on vous a, c'est quand même, on sait que vous avez une double culture, quand vous voyez, juste fais une petite parenthèse, la Pologne aujourd'hui qui est présentée comme un modèle, hein, comme une référence, hein, aujourd'hui de modèle économique. On dit même, à l'époque on parlait du plombier polonais, aujourd'hui on parle de l'investisseur polonais, puisqu'on est en train de dire qu'il va y avoir des investissements polonais en Allemagne notamment. Ça vous inspire quoi? C'est quand même un retournement de situation qui est complètement dingue, quoi.
Alors, il faut voir d'où la Pologne vient. C'est aussi, en grande partie, un rattrapage. Hein. Enfin, la croissance économique, c'est un rattrapage, puisqu'on partait d'une base très faible. Mais il y a quand même quelques petites recettes dont le monde occidental pourrait s'inspirer. Au global, si je compare les modèles économiques, la Pologne est un peu moins bureaucratique et un peu plus allante. La consommation est un peu plus fiscalisée qu'en France. TVA à 23, la France à 20. Ça, c'est quand même bien.
On y travaille plus, comme le veut Jean-Marc Damien.
On travaille plus en nombre d'heures.
Productif.
Et aussi, la richesse et la réussite est rewardée. C'est aussi un pays très catholique, vous voyez, donc avec tous les défauts c'est pas un pays protestant, mais on accepte la réussite. Socialement, on l'accepte. Et quand on classe tous les pays dans l'acceptation de la réussite, la Suède ressort en premier et la Pologne en deuxième en Europe. Et donc, ça veut dire que les entrepreneurs sont quand même motivés à travailler.
Pas stigmatisés.
Et pas stigmatisés. Voilà. Et donc, je vois pas d'autres recettes miracles, mais c'est quelques petites recettes qui peuvent être très facilement appliquées. Alors après, il faut bien sûr du courage politique, mais c'est ça peut-être qui engendre cette croissance.
Jean-Marc Daniel, vous parlez toujours du Congo et de l'Inde, mais de la Pologne quand même.
Alors, la Pologne, là où je rejoins ce que vient d'être dit, c'est qu'effectivement, c'est du rattrapage. Il faut voir dans quelle situation.
Okay. C'est toujours bien.
Oui, j'entends bien.
Il y a des gens qui se rattrapent jamais.
Oui. Entre 48 et entre 1948 et 1989, elle se rattrapait jamais. Il faut voir dans quel état elle était, la Pologne, en 1989 quand même. Et donc, il y a eu une remontée spectaculaire de l'économie polonaise, mais la réserve de croissance de l'économie polonaise, c'est comme en Inde. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la Pologne, c'est 4 fois plus de paysans que la France. C'est-à-dire, il y a 4 fois plus de paysans en Pologne qu'en France. Le véritable grand exode rural qui est encore à venir en Europe, c'est la Pologne et la Roumanie. Et donc, alors la Roumanie...
Donc des poches de croissance future.
Donc des poches de croissance future. Et la Pologne, elle vit là-dessus. Elle vit effectivement avec une monnaie qui est une monnaie qui est en permanence ajustée véritablement dans un objectif de faire de la compétitivité par le change, et avec encore une modification considérable de sa population
active. Donc c'est pas encore tout à fait le bon modèle.
Ah ben c'est un modèle de rattrapage.
C'est un
modèle pour le Congo.
Juste petit commentaire parce que
franchement, il est pas venu en sabots.
Sur les agriculteurs
avec une cravate et vous le traitez de paysan.
Mais j'ai rien contre les paysans. Je constate qu'il y a 4 fois plus de paysans.
Deux chiffres sur l'agriculture. La France, principal pays agricole de l'Union européenne, excédent commercial agricole 0. La Pologne, avec les chiffres que vous avez cités, excédent commercial 20 milliards d'euros d'excédent commercial agricole. Avec ce que vous citez.
Allez, on passe à la question d'après.
Je voudrais rajouter une chose.
Mais non.
C'est qu'il y a d'intéressant sur l'agriculture, c'est que...
Aidez-moi, Hervé.
La Pologne, c'est effectivement 4 fois plus d'agriculteurs, c'est 2 fois moins de subventions de l'Union européenne au titre de la politique agricole commune. Et donc là où je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est que le problème de la France, c'est quand même qu'elle a un secteur agricole, qui est un secteur agricole qui est particulièrement peu performant.
Qui est public, en fait.
Qui est totalement public. C'est une administration.
C'est européen, en fait.
Oui.